Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau Portrait d'Assaut, l'émission pour mieux connaître les acteurs et actrices et les élans de coopération qui font vivre notre territoire. Une émission réalisée en partenariat avec le comptoir des Assauts. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous vous présentons le tiers-lieu L'Escambie, situé à Aiguilles dans le Queyras. Et nous sommes avec Axel, qui a fait partie de l'équipe d'origine du projet et qui est salarié depuis le printemps 2025 à L'Escambie. Donc, bonjour Axel.
Salut Marion. Bonjour à tous et à toutes.
Merci d'être venu depuis le Queyras quand même. Ça fait une petite trotte pour venir jusqu'à Briançon.
Tout à fait. On est un petit peu dans notre vallée isolée, surtout en ce moment où il y a des travaux sur la route. Mais c'est un grand plaisir d'être là.
Eh bien, c'est un grand plaisir de te recevoir. Alors, on va parler donc de L'Escambie et je te propose de commencer par nous raconter l'histoire de ce projet qui est assez récente d'ailleurs. Comment est née l'idée de créer ce lieu?
Alors, l'idée, c'est venu de plusieurs personnes qui habitent donc Aiguilles dans le Queyras, donc dans ce petit village perdu au fond de cette petite vallée magnifique. Et on avait tous un petit peu le même diagnostic, c'était que ce village, malheureusement, était un petit peu en perte de vitalité. On a vu plusieurs commerces fermés, des restos qui étaient peu ouverts ou pas ouverts. Il n'y avait pas d'endroit en fait, pour se retrouver, notamment pendant la période, l'intersaison. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul, qu'on était un certain nombre. Donc avec Lisa, avec qui on a un petit peu lancé les choses, on a créé simplement un petit groupe WhatsApp. On a réuni des gens, soit avec qui on en avait déjà discuté, soit dont on pensait qu'ils pourraient être intéressés de réfléchir à cette question. Et on a commencé par se retrouver sur une table de pique-nique dans la plaine des Ribes, qui est un petit peu le petit rendez-vous comme ça, quand on ne sait pas trop où se retrouver, justement. Et puis, on a fait des apéros où on s'est mis des grandes feuilles et on s'est lâché, on s'est dit de quoi on aura envie, pourquoi, qu'est-ce qu'on aura envie de faire, quel serait notre rêve, Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de convergences. D'abord, sur l'envie d'avoir un espace partagé qui soit ni un bar, ni dehors, parce que simplement, parfois, c'est compliqué d'être dehors.
Par exemple, l'hiver.
Et que sinon, l'autre option, c'était d'aller chez les uns ou chez les autres. Mais là, on rentre dans l'espace privé. Ça exclut forcément, de fait, des gens. Donc, il y avait vraiment ce besoin d'avoir un espace, un endroit dédié au lien social, au fait de se retrouver, à la convivialité. Ça, c'était la première partie.
Vous étiez combien à ce moment-là, ce petit groupe?
On était une trentaine au début.
Quand même,
autour de ça. Après, à chaque fois, on était 10, 15, pas toujours les mêmes personnes. Mais il y a un petit noyau qui a commencé à émerger de ce plus grand groupe. Et puis, il y avait une autre partie où il y avait vraiment une envie, de faire ensemble, d'apprendre ensemble, vraiment une dimension et d'échange réciproque, des savoirs, des savoir-faire, et puis de mener ensemble une réflexion sur justement notre territoire, on en parlait au début, qui est quand même très particulier, donc c'est la haute montagne, on est sur une vallée qui est isolée, très dépendante du transport routier, très dépendante de l'économie touristique. Et évidemment, on a tous, en tout cas dans ce groupe, conscience que ce sont des choses qui sont fragiles, qui sont soumises à un faisceau d'incertitudes énormes, réchauffement climatique, crise énergétique, etc. Et qu'on avait besoin d'un espace collectif pour penser ensemble notre vie sociale collective et anticiper, en toute modestie, mais anticiper l'avenir et puis se dire qu'est-ce qu'on peut commencer à mettre en place pour réfléchir souveraineté alimentaire, relocalisation des activités, commencer à imaginer un petit peu le futur et qu'on ne se le prenne pas en pleine face, mais qu'on ait un petit peu anticipé les choses et puis qu'on ait aussi un cœur de groupe et un fonctionnement collectif qui soit déjà en place avant que ça soit l'urgence, quoi.
Oui, et puis la volonté, de ce que j'entends, de se réapproprier aussi ce pouvoir-là, d'imaginer le futur de sa vallée et donc d'être acteur, vous, en tant que citoyen et citoyenne, et pas seulement d'aller solliciter, ça aurait pu être une idée, d'aller solliciter des collectivités publiques, par exemple. Vous aviez envie, vous, d'être acteur?
Complètement. Et il nous a semblé, et je pense que c'est un peu le principe de ce genre d'initiative, c'est que c'est pas du tout concurrentielle à, par rapport justement aux collectivités qui font un travail local qui est essentiel et qui est de l'ordre du service public. Nous, on est sur quelque chose d'un peu plus interstitiel. Et l'idée, c'est vraiment aussi d'apprendre à faire collectif, à travailler notre propre autonomie et d'apporter peut-être un élan un peu organique que n'ont pas forcément des institutions qui ont d'autres objectifs et d'autres modes de fonctionnement qui sont complètement complémentaires. Mais il y avait, enfin, on a identifié qu'il y avait vraiment un besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu intermédiaire, d'où l'idée du tiers-lieu, qui porte bien son nom.
Oui, on va revenir sur la définition du tiers-lieu. Mais justement, peut-être restons dans l'histoire. Il y a eu cette idée, il y a eu ces rendez-vous, il y a eu ces envies dont tu viens de nous faire part. Et ensuite, à quel moment vous êtes passé à l'action ?
Alors, en fait, on est passé à l'action très, très rapidement. C'est-à-dire que, évidemment, l'enjeu central, enfin, en tout cas, ce sur quoi ça se catalysait, c'était sur cette histoire d'avoir un lieu. La première chose qu'on a faite, c'est se mettre en quête d'un lieu, ce qui n'est pas évident, on le sait tous, hein, dans les Hautes-Alpes, c'est quand même quelque chose de compliqué. On a eu plusieurs pistes qui ont plus ou moins démarré et puis finalement qui ont échoué. Mais on s'est dit, en attendant qu'on ait un lieu, parce qu'on n'avait aucune idée du temps que ça prendrait, commençons par faire des choses. Et une des premières réflexions qu'on avait eues, qui était à la fois d'ordre symbolique et puis d'ordre très concrète, c'est que la dernière boulangerie qui restait dans le village venait de fermer parce que le boulanger avait pris sa retraite et qu'il n'y avait pas eu de remplaçant. Et du coup, il y avait ce constat que tout le monde faisait 10 bornes pour aller acheter sa baguette et que c'était quand même un petit peu absurde. Et qu'un village sans boulangerie, sans pain, il y avait quelque chose d'un peu triste et puis voilà.
Surtout en France.
Voilà, exactement. Et du coup, on a commencé à réfléchir à ça. Il se trouve qu'encore plus au fond de la vallée, à Briest, il y a une jeune femme qui s'est installée, qui a repris le Sherpa, qui est une épicerie locale, et qui fait aussi qui a un fournil et qui fait du très bon pain bio, le vin, etc. Et qui, elle, avait vraiment des problèmes de dimensionnement aussi sur son fournil qui est très gros. Donc, elle avait du mal avec les débouchés. Enfin, voilà, elle avait du mal à travailler hors saison, etc. Et du coup, on s'est associé à elle et on a proposé très rapidement des commandes groupées de pain. Donc, une fois par semaine, plutôt que d'aller chacun acheter sa baguette, on faisait une livraison groupée. Et on se retrouvait, du coup, on n'avait pas lieu. Donc, on se retrouvait sur la place du village. Donc, ça a commencé à l'automne, c'était sympa. Et puis, petit à petit, on a sorti les blousons, les moon boots et compagnie pour tenir ça. Mais c'était, pour nous, c'était très fort ce moment parce que ça a vraiment créé un petit cœur de personnes qui, tout d'un coup, se sont mises en commun pour faire vivre un artisan local. Et du coup, on avait ce petit rendez-vous chaque semaine qui aussi attisait la curiosité, puisque les gens se disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, petit à petit, ça a créé un petit « buzz », entre guillemets. Et voilà, on a fait ça pendant quelques mois. Et puis, on a fait, il me semble, deux événements. On a fait une soirée raclette hors saison touristique, à un moment où il ne se passe pas grand-chose. Et c'était super, parce qu'on a eu, je crois, 50 personnes qui sont venues. Et donc, on a vraiment validé le fait qu'il y avait une envie de se retrouver dans ces périodes où il se passe moins de choses, parce que ce n'est pas des périodes touristiques. Donc ça nous a vraiment validé dans l'idée qu'il y avait un vrai besoin en intersaison de proposer des choses et de faire vivre notre vie de village, en fait, et notre lien social. Et on a fait pareil, un peu sur le même modèle, une soirée-jeu qui était aussi hyper sympa. Donc ça, c'était dans la salle polyvalente du village. Et puis, on a eu énormément de chance par des réseaux et des rencontres très chouettes de personnes qui sont apiculteurs, donc Fred et David Monet, qui ont racheté un grand bâtiment qui est à l'entrée du village, alors en bas du bourg, pas dans le centre-centre-bourg, mais en bas du village. Ils ont acheté un très grand bâtiment qui a été pendant longtemps un centre de vacances, les Hauts-Lagrange. Et eux se sont installés au rez-de-chaussée, ils ont monté leur miellerie. Ils ont rénové une partie du bâtiment pour en faire des appartements qu'ils louent à l'année pour des gens. Donc, on comprend qu'eux sont aussi... Il y a une convergence, en fait, dans nos démarches de vraiment travailler pour les habitants et pour la vitalité du village, la possibilité pour les gens de s'installer. Voilà, avec beaucoup de générosité, ils nous ont accueillis dans ce lieu et ils nous ont mis à disposition une partie du premier étage du bâtiment.
Gratuitement alors ?
Tout à fait, gratuitement. Bon, évidemment, on participe aux charges et voilà, on essaye de faire en sorte que la cohabitation soit la plus fructueuse pour tout le monde. Et on a donc, peut-être je peux décrire un petit peu l'espace. Mmh. Du coup, on est au premier étage. Donc, bon, on n'a pas une accessibilité, malheureusement, l'accessibilité au top de ce qu'on aimerait en termes de handicap et d'accueil de personnes à mobilité réduite. Mais ça nous a permis vraiment de construire quelque chose et de développer ça. Du coup, on a une très grande salle, doit faire 60 mètres carrés, qu'on a prénommée la salle de bal parce qu'il y a un très joli parquet. Donc voilà, c'est une belle salle très lumineuse avec trois fenêtres dans laquelle on a installé un petit poêle à bois pour l'hiver parce qu'il ne fait pas très très chaud. Où on fait toutes nos activités, on a un petit coin cuisine, buvette, voilà, pour accueillir les gens dans un espace de convivialité. Et puis, on a deux autres pièces qui sont un peu plus petites. Une qu'on a dédiée à la friperie. Et puis, on a une autre pièce qui est une pièce qui permet à la fois d'avoir un espace d'intimité s'il y a besoin pour certaines activités. Je pense par exemple à des rendez-vous d'orientation psychologique qui ont été proposés pendant un temps, où là, il y avait vraiment besoin d'être en face à face. Et surtout, cette pièce-là, on l'a dédiée aux enfants. C'est-à-dire qu'on a installé des petites banquettes, des jeux, des bouquins pour enfants. Du coup, les parents peuvent venir avec leurs enfants. Les enfants peuvent jouer dans leur coin pendant que les parents font autre chose, discutent, échangent. Enfin, voilà.
Donc, ça laisse penser déjà le type d'activité que vous pouvez proposer. On va y arriver. Plus généralement, vous avez nommé ce lieu l'Escambie.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors ça, c'est fou parce que souvent, quand on cherche un nom, ça prend des proportions, mais des heures et des jours pour trouver. Et là, donc c'est Sabine, une des personnes qui est aussi à l'origine, qui est dans vraiment le petit noyau de départ. Un jour, on a parlé du lieu, qui est arrivé avec une proposition, qui a proposé ce mot d'Escambie, qui est un mot qui vient de l'occitan et qui signifie le partage, l'échange. Et ça nous a semblé, mais juste tombé sous le sens. Il y a eu une espèce d'unanimité en deux secondes et demie. Et du coup, voilà, on a choisi ça.
Très bien. On va peut-être faire une pause musicale avant de passer au cœur de vos actions et d'expliquer aussi ce qu'est un tiers-lieu.
C'est important.
On en a un petit peu parlé, c'est quand même important. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais écouter ?
Moi, j'avais bien envie de partager un moment quelque part qu'on a vécu il n'y a pas longtemps. On a fêté notre premier anniversaire fin septembre, le 27 septembre. Et on avait envie de s'offrir un petit moment musical festif, sympa. Et on a accueilli un super groupe local qui s'appelle Jazzwell Suspects. On a passé un moment génial. C'est du vieux jazz swing, mais mode un peu électro. Et voilà, tout le monde a dansé, toutes générations confondues. Et on a suivi ça d'une super jam session. On parlera de ça après. Et voilà, c'était l'occasion de faire un petit revival de ce moment.
Alors, on écoute Jazzwell Suspects.
good queen quickening shake till it makes you think like an embryo snake. They are speaking of Egyptian hella. She weighs 220 pounds but they're the key. They like them.
Vous écoutez l'émission Portrait d'Assaut, dans laquelle nous vous présentons aujourd'hui l'Escambie, un tiers-lieu situé à Aiguilles, dans le Queyra. Je suis avec Axel, qui fait partie de l'équipe qui est à l'origine de ce projet et qui est depuis le printemps 2025 et salarié à l'Escambie. Alors l'Escambie, on le disait donc, c'est un tiers-lieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Axel ?
Alors, un tiers-lieu, c'est assez compliqué à définir parce que justement, l'idée, c'est quelque chose qui a une forme de liberté dans son fonctionnement. En fait, c'est un concept qui a été élaboré par un sociologue américain qui s'appelle Ray Oldenburg, qui était prof de socio-urbaine. Et c'est parti de son expérience à lui, de ce que j'ai lu en tout cas, où il vivait à l'américaine, il vivait très loin de son lieu de travail. Donc, il faisait beaucoup de voitures. Donc, il passait de chez lui, voiture, boulot, revoiture chez lui. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il dépérissait un peu de manque de lien social. Et il a commencé à étudier tous ces espaces que lui a définis comme un peu interstitiels entre justement des lieux qui ne sont ni chez soi, ni le boulot. Le centre pour lui de la chose, c'est la discussion. Des lieux où on peut discuter avec d'autres, échanger. Et donc, il a forgé ce concept de tiers-lieu. Un tiers-lieu, ça peut être simplement le bistrot du coin. Et ça peut être un espace de coworking, un Fab Lab. Donc, en France, c'est un mouvement qui existe depuis, on va dire, une quinzaine d'années, qui a pris beaucoup d'essor là, ces derniers temps. Et donc, il y a, on va dire, à peu près autant de tiers-lieux et de modalités de tiers-lieux que d'endroits qui sont créés sous ce nom. Alors, il faut bien savoir que pour l'instant, ce n'est pas une entité juridique, un tiers-lieu.
Oui, c'est vous qui vous nommez tiers-lieu.
Voilà, on se nomme tiers-lieu, on se met dans cette mouvance. Il y a des fédérations, enfin, ça commence à se structurer. Mais c'est pas, il n'y a pas une définition stricte. On peut imaginer un peu tout ce qu'on veut, le tout étant un lieu vraiment centré sur le lien social, la convivialité, et puis qui soit comme ça, un peu comme une maison qui n'est pas chez soi, on va dire. Une maison collective qui n'est pas chez soi. Et puis qui n'est pas non plus, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, qui n'est pas non plus un service public.
Oui.
On n'est pas là pour faire une délégation de service public. On n'est pas là pour marcher sur les plates-bandes des collectivités. On est plutôt là pour travailler avec elles, dans la mesure du possible, et d'inventer cet espace où finalement, enfin, en tout cas pour nous, l'idée, c'est vraiment que cet espace soit approprié par les habitants et que ça devienne ce que chacun en fait, chacun propose. En fait, je parlais de quelque chose d'organique. Donc, l'idée, c'est vraiment, on ne va pas partir avec des choses toutes prédéfinies. On va laisser émerger les envies, proposer un espace où on puisse mettre en valeur les savoirs, les savoir-faire de chacun, que chacun a envie de partager. Et ça, c'est très fort. Et on sent qu'il y a vraiment une envie là-dedans. On sent, en tout cas, chez nous, et je pense que c'est vrai un peu partout, qu'il y a une vraie vitalité, notamment des pratiques amateurs. Et que de mettre ça en commun, tout d'un coup, on grandit, on apprend des autres, on fait ensemble. Et voilà, il y a un vrai cercle vertueux.
Et alors justement, est-ce qu'on peut détailler ce que vous proposez dans ce lieu ? On parlait, en décrivant l'espace, d'une friperie, déjà, peut-être, on peut commencer par ça, et d'un espace pour enfants.
Oui, tout à fait. La friperie, en fait, il y avait vraiment une volonté très forte de la part du noyau qui a commencé à monter le projet, et puis des échos qu'on a pu recueillir un petit peu à droite à gauche, d'aller travailler sur ces questions d'environnement, de recyclage, d'avoir des pratiques de consommation plus vertueuses, plus locales, moins énergivores, etc. Et donc, une des premières choses qu'on a mises en place, aussi parce que c'était quelque chose de relativement simple à faire, c'était de faire un vestiaire de seconde main. Donc, l'idée, c'est faire du tri, nous amener des choses qui sont en bon état et qui pourraient faire de nouveaux heureux, alors qu'ils dorment dans votre placard. Et nous, on se charge de les trier, de les mettre en valeur et de les proposer à des prix vraiment défiant toute concurrence. Donc, l'idée, c'est vraiment que les gens puissent s'habiller, se rééquiper à moindre prix, se faire plaisir, se varier, parce qu'on a, on est tous pareils, on a envie de nouveautés, etc. Mais sans partir dans le délire de la surconsommation textile qui est une catastrophe à plein de niveaux. Bon, on ne va pas rentrer dans... Il y a beaucoup de littérature là-dessus, donc je vous invite à aller voir, mais c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Et notamment, j'en profite pour faire un tout petit peu de pub, on a une partie pour les enfants. On a énormément de gens qui nous donnent des choses. N'achetez pas, venez rééquiper, les enfants, ils grandissent, vous nous ramenez les habits qui ne vont plus, vous repartez avec des habits qui leur vont. Enfin, on travaille aussi beaucoup sur de troc comme ça, parce qu'on, voilà, il faut que ça tourne. Enfin, vraiment, le but, c'est ça. Ça, c'est vraiment des choses qu'on a envie de développer, la partie économie circulaire, et d'aller un petit peu plus loin que la friperie.
D'accord. Et cette friperie, elle est ouverte quand?
Alors, elle est ouverte sur tous les temps d'ouverture de l'Escambie. Alors, on est ouvert du mercredi au samedi de 15h à 20h. Donc, sur tous ces créneaux-là, il y a la possibilité d'aller chiner. Et dès qu'on est ouvert, en fait, qu'on a des événements hors de ces créneaux, on peut aller chiner. Et voilà, c'est ouvert quand on est ouvert.
D'accord. C'est pareil pour l'espace enfant?
Tout à fait.
Et alors, quels sont les autres ateliers, animations que vous proposez?
Alors, petit à petit, on a commencé à mettre en place un petit programme avec une partie d'activités qui sont régulières, qui sont des initiatives qui sont portées par des habitants, de gens qui sont venus proposer. Donc, on a par exemple un atelier dessin, donc François qui est venu. Moi, j'adore dessiner. Ça me dirait bien d'organiser ça. Donc, on se retrouve un jeudi sur deux. On dessine tous ensemble. On se donne un thème. On prend un petit goûter ensemble. On dessine et c'est super. Dans le même esprit, on a un atelier tricrochet, donc tricot-crochet, qui est animé par Martine, donc qui est grande spécialiste du tricot et du crochet. Donc ça, c'est un dimanche après-midi par mois. On a un atelier EFT.
Ça veut dire quoi, EFT?
Emotional Freedom Technique.
D'accord.
C'est une technique qui a été développée par un Américain qui a repris des techniques de l'acupuncture à destination des gens qui puissent se l'approprier pour gérer, enfin, en temps... en live leurs émotions et prendre soin, voilà, des chocs que la vie peut leur faire subir, par exemple. Et donc, pareil, donc c'est Julie qui a proposé ça, qui s'est formée à cette technique et qui avait envie de la transmettre et puis de l'expérimenter de façon collective. Donc voilà, c'est un atelier qu'on anime une fois par mois. Une fois par mois, le dimanche matin, on se réunit pour parler et manger italien. Donc on a un brunch italien qui est animé par Sabine, qui est d'origine italienne, donc qui mélange... des petits cours d'italien, donc faire un peu de linguistique, on apprend les conjugaisons, mais tout en rigolant beaucoup, en jouant et surtout en mangeant des bonnes petites choses italiennes. On continue nos commandes groupées de pain et on a rajouté aussi du fromage de la chèvrerie des Moulins.
Ce sont des ventes en amont, en
voilà.
Gros, et les personnes viennent récupérer.
Exactement, exactement. Donc, chaque semaine. Il y a une chorale aussi qui s'est installée à l'Escambie tous les mardis soirs. Donc, c'est un petit groupe qui commençait à se constituer, qui voulait mettre ça en place et puis qui était à la recherche d'un lieu. Et donc, ça s'est trouvé. Donc, ça, c'est super sympa, très festif, très joyeux. Et puis, on a, ça, c'est un petit peu la star, on a une jam session une fois par mois, le dernier vendredi du mois, en principe. Et puis, cette année, on a mis un peu un focus sur une activité qui nous semble intéressante et aller complètement dans le sens de ce qu'on disait sur la relocalisation, la souveraineté alimentaire, etc. C'est qu'on a créé un potager collectif, enfin, qui en fait existait déjà l'an dernier, mais qu'on a essayé de structurer. Et notamment, on a fait appel à Johan, qui est maraîcher à Abriès, et Lila, qui travaille en maraîchage en plus de la chèvrerie qu'elle gère donc à Arvieux, qui sont venus pendant toute la saison régulièrement nous apprendre des techniques, nous aider à structurer notre potager. Donc voilà, donc on essaye, c'est comme une espèce de petite école du potager. En même temps, on essaye de produire et surtout, on essaye de s'améliorer. Et l'idée, c'est que ça soit aussi un espace qui soit ouvert à des gens qui ont leur propre jardin et qui ont besoin un petit peu d'aide, parce que c'est quand même pas évident de faire pousser des légumes à 1500 mètres d'altitude. Donc, c'est bien d'avoir des gens qui nous donnent un petit peu des trucs, des astuces. Et voilà. Donc, il y a un petit groupe qui commence à se constituer. Donc, c'est une première année. On a des choses qu'on a bien réussies, d'autres moins. Mais voilà, on continue. Et ça nous plaît beaucoup l'idée de... Voilà, on est très loin de l'autonomie, mais de de réfléchir un petit peu à ça collectivement.
Et pour tous ces ateliers, comment ça marche? C'est quel public et quelles conditions pour y participer?
Alors, le principe en général, c'est qu'on essaie d'être au maximum sur de l'inclusivité, c'est-à-dire qu'on est très dans le multigénérationnel. En général, quand il se passe des choses à l'Escambille, il y a toujours des jeunes, des moins jeunes, des enfants, des même très petits-enfants. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. Sur les ateliers, alors selon évidemment le contenu, c'est-à-dire que par exemple sur l'EFT, c'est moins adapté à un public d'enfants, donc c'est plutôt adulte, mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de fermeture, quelle qu'elle soit. Et puis pareil, en fonction des conditions, c'est un petit peu, par exemple sur le brunch italien, comme on fait à manger, on fait des courses, on demande une participation aux frais, mais sur la plupart des ateliers, c'est une participation libre. Donc l'idée, c'est vraiment que ça soit le plus accessible au maximum de personnes.
Sachant qu'il y a une adhésion, j'imagine, au lieu.
Tout à fait, on a une association, loi 1901, très classique. Et on a comme une obligation de faire adhérer pour, ne serait-ce que pour que les gens soient couverts lorsqu'ils font des activités à l'Escambille. On a fait le choix, les adhésions sont à tarif libre. Et on a deux types de membres. On s'est dit qu'il y aurait potentiellement des gens qui seraient de passage parce qu'il y a un concert, parce qu'il y a un événement ou parce qu'ils sont en vacances, même si ce n'est pas notre cible principale, et que c'était délicat de leur faire payer 10, 20 euros pour prendre un café ou voilà, faire passer une soirée. Donc, on a une adhésion en tant que membre usager à partir de 1 euro. Et puis, on s'est dit quand même que c'était bien de marquer le coup pour les gens qui sont là plus souvent, dont on a envie qu'ils s'impliquent, notamment dans le fonctionnement, les choix qui sont faits dans l'Escambille. Et là, c'est des membres actifs. Donc, l'adhésion est à prix libre à partir de 10 euros pour l'année, sachant qu'on est sur une année de septembre à septembre. Et ces gens-là, contrairement aux membres usagers, ont un droit de vote à l'AG, ce qui permet D'accord. vraiment voilà, de dissocier, d'avoir un public qui est juste de passage, mais couvert, et un public vraiment de gens impliqués et qui participent à l'association.
Et pour l'implication, il y a une demande d'un temps donné ou une exigence?
Alors, théoriquement, on avait imaginé ça. Dans les faits, en tout cas pour le moment, on est en train de réfléchir à ces questions-là. Là, on s'engage dans un dispositif local d'accompagnement justement pour réfléchir à ces questions. Pour l'instant, on n'est pas dans, voilà, on n'a pas vraiment un suivi fixe.
Et donc, tu disais quand même qu'il y avait, au-delà de ces ateliers réguliers dont tu parlais, il y a aussi des événements. Donc, comme on écoutait Jazuel Suspect tout à l'heure, des moments, des one-shots, des concerts. Il y a une régularité quand même là-dedans, ça dépend comment.
Alors,
ça se passe.
C'est intéressant qu'on parle de régularité parce que ça, c'est aussi une réflexion qu'on a menée. Nous, on a vraiment le souhait de travailler pour les habitants, notamment dans des périodes où, comme on le disait, il ne se passe pas grand-chose parce qu'on est en intersaison touristique. On essaye de vraiment concentrer beaucoup une programmation un peu dense aux périodes, donc automne et printemps, aux périodes où il n'y a rien, de carrément fermer en très haute saison, vacances de février, vacances de Noël, et puis une grande partie de l'été, pour laisser vraiment la place à la saison touristique qui n'est pas de notre domaine, et puis pour pas qu'il y ait de concurrence, et puis voilà. Et les événements, alors ça se fait quand même au fil de l'eau, mais on essaye dans ces périodes-là de proposer quand même pas mal de choses. On a la chance, et c'est un petit peu la mission qui nous a été confiée, parce qu'on a eu un conventionnement de l'État en tant que fabrique de territoire. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'associer, d'aller vraiment chercher toutes les richesses du territoire pour les mettre en valeur, créer des synergies. Donc, on travaille notamment beaucoup avec Bienvenue là-haut, qui est le secteur culturel de la CSSQ, le centre social du Guy Estroquera, qui est situé à Aiguille, qui nous propose régulièrement des interventions d'artistes. On s'associe à leur festival Clin d'œil, qui diffuse des documentaires. Donc, par exemple, en novembre, on va avoir deux projections. Le 15 novembre, on organise une bourse au ski. Le 10 novembre, on a une soirée jeu avec Piquet Collégramme, donc la ludothèque du Guy Estroquera. Voilà, donc, et on a régulièrement, alors on n'est pas une salle de concert, mais on essaie de faire des petits moments musicaux, en général, beaucoup avec Musicera, qui font des concerts chez l'habitant. Et on est considéré comme un peu chez l'habitant, parce qu'on est un peu à la maison. Donc voilà, c'est assez variable. Et puis c'est selon les propositions aussi qu'on peut avoir. On a travaillé aussi avec le parc du Kera pour faire aussi des soirées où on peut discuter sur des sujets un peu plus techniques, écologiques, agricoles. Là, on a avec Terre en Guille. Enfin, voilà, on a un certain nombre de partenaires avec qui on essaye de mettre en place des espaces de débat public, quoi.
On imagine bien ce lieu. On a un peu plus une idée de ce qui s'y passe. Tu disais, Axel, que vous étiez deux salariés. Donc, toi, tu es salarié. Il y a...
Justine,
qui... donc, vous êtes à l'année. Vous faites vivre le lieu à l'année.
Tout à fait.
D'accord. Et sinon, il y a des bénévoles qui vous accompagnent?
Oui. Alors, en fait, on a un fonctionnement un peu particulier parce qu'on a décidé de pas aller sur un bureau CA traditionnel comme on voit dans les assos, mais d'être sur une forme collégiale. Donc, on a une collégiale qui correspond, on va dire, au conseil d'administration, mais où il n'y a pas l'idée un président, un trésorier. Donc, on se partage un peu tous les tâches. Là, c'est un petit peu en recomposition, mais en gros, on est entre 5 et 9 membres de la collégiale. Et puis après, toutes les personnes qui sont adhérentes sont invitées, bienvenues. Et au contraire, on a vraiment besoin d'aide pour faire vivre ce lieu, et plus les gens s'impliquent, même en petite quantité, même si on n'a pas beaucoup de temps, un petit coup de main, une petite présence, c'est ça qui fait que le lieu vit et qu'il prend de l'ampleur et qu'on peut développer plein de choses. Donc voilà, c'est un petit appel.
Et tu disais que vous vouliez avoir un fonctionnement organique, que ça vienne vraiment des habitants. Comment vous le mettez concrètement en place, ça, pour faire émerger ces projets?
Là, par exemple, à l'occasion de notre premier anniversaire, on a créé ce qu'on a appelé un mur des envies. Donc, c'est un endroit où on vient déposer, soit si on a une spécialité qu'on a envie de partager. Je sais pas, par exemple, il y a une proposition d'un atelier de mosaïque, quelqu'un qui fait de la mosaïque et qui a envie de faire ça en collectif, qui peut proposer ça. Ou alors, il y a quelqu'un qui a hyper envie de faire de la danse africaine. Alors, est-ce qu'on va trouver
quelqu'un
pour faire nous embarquer là-dedans? Voilà. Et donc, chacun est invité à dire si ça l'intéresse. Et en fonction, quand il y a une proposition qui suscite l'engouement, on va prendre le temps de l'étudier, d'aller voir un petit peu ce que veulent les gens, et puis d'essayer de mettre ça en place. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on a. Et puis sinon, ça se fait beaucoup de façon très spontanée.
Ouais. Et financièrement, comment ça marche?
Alors, jusqu'à 2024, on a fonctionné vraiment en fonds propres, c'est-à-dire avec les sous des adhésions, les quelques revenus qu'on génère, soit lors d'événements avec une buvette, enfin très classique, les commandes groupées, on prend une toute petite marge pour pouvoir organiser tout ça. Mais surtout, ce qui nous permet vraiment, vraiment, vraiment de structurer, et notamment de nous salarier, et donc d'avoir vraiment une force vive qui est engagé de façon fixe et régulière, c'est un conventionnement qu'on a eu de l'État, donc c'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui a un dispositif qui s'appelle Fabrique de territoire, qui dure sur 3 ans, qui nous permettent, en gros, pour schématiser, de rémunérer un plein temps pendant ces 3 ans. Donc c'est énorme, parce que c'est le poste le plus onéreux et c'est le plus compliqué en général à financer. Du coup, ça nous permet vraiment de dédier du temps pour structurer tout ça. Donc, c'est un beau cadeau et c'est vraiment un super soutien. Et ça montre aussi à quel point l'État a identifié que les tiers-lieux, c'est vraiment des espaces hyper importants pour la vitalité des territoires.
Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous avez fêté vos 1 an, un petit bilan et projet futur en 1 minute.
Ouais, moi, je vais essayer d'être rapide. On est hyper heureux de ce qui se passe. Ça répond vraiment à un besoin. Enfin, on le voit, on a des propositions, les gens viennent, les moments sont toujours très sympas. On voit dès maintenant qu'il y a un renforcement du lien social. Il y a vraiment, par exemple, dans l'accueil des personnes qui arrivent, qui tout d'un coup trouvent un lieu de sociabilisation tout fait, où ils rencontrent tout de suite. Il y a une solidarité qui se met en route du fait de ce lieu, des gens qui se connaissaient un peu de loin, qui maintenant sont... Il y a une intimité vraiment qui s'approfondit. Donc ça, pour nous, c'est vraiment génial. Et puis, on a envie, un, que ça continue, deux, que ça se développe. Là, la question qui se pose, c'est que même si on a ce soutien de l'État, il faut qu'on réfléchisse à un modèle économique. Il faut qu'on essaye de gagner en autonomie financière. Donc, on réfléchit à un modèle un petit peu hybride, un petit peu nouveau. Alors, ça peut perturber. Il faut qu'on travaille à ça collectivement, de qu'est-ce qu'on met en place. Donc, c'est vraiment les outils de l'économie sociale et solidaire. On pense notamment à des ateliers partagés entre des artisans, des amateurs, où il peut y avoir une hybridation, des développements d'activités économiques. Enfin, voilà, on travaille à ça. Et puis, continuer à soutenir ces pratiques amateurs et voilà, ce pôle de convivialité et d'échange, de réflexion commune sur notre vie locale, quoi.
Eh bien, on vous souhaite que ça marche. Pour vous suivre, vous contacter,
on a un Facebook, l'Escambi.
Mm-hmm. Okay.
On a un groupe WhatsApp. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On a un mail, un téléphone et voilà, Facebook. Et puis, on essaye au maximum, quand c'est des événements un peu larges, de diffuser sur les réseaux des Hautes-Alpes. Et puis, sinon, on a plutôt une diffusion très locale, puisque vraiment notre objectif, c'est
bien
faire
sûr
vivre le local.
D'accord. Merci, Axel.
Merci à toi.
Et alors, on se retrouve pour vous, auditeurs et auditrices, dans le prochain Portrait d'Assaut dans 2 mois, donc le dernier jeudi de décembre. Et ce sera avec ECHO, une association de Briançon qui porte des projets positifs et innovants dans les domaines du développement durable et de la solidarité internationale. Bonne soirée à toutes et tous.